Bonjour. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que le bon Dieu de l'Ancien Testament, il n'est pas aussi mauvais que j'en avais parlé. Parce qu'on m'a fait remarquer que dans l'Ancien Testament, il y avait des très beaux textes. Le texte d'Isaïe, hein? Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom. C'est plein d'amour, ça. Hein? Même les textes de Jérémie dans la liturgie d'aujourd'hui. J'ai été mis d'un amour universel ou infini. Hein? C'est beau. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais ça, c'était comme pour annoncer à l'Ancien Testament, annoncer que le Dieu qui viendrait à parler par Jésus-Christ, représenté par Jésus-Christ, serait un Dieu d'amour. C'était comme une annonce. On annonçait quelque chose. Donc, heureusement, le bon Dieu de l'Ancien Testament, il restait le bon Dieu. Un Dieu... Certains l'ont vu comme un Dieu féroce, dur, mais c'est un Dieu d'amour. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle que j'aimerais, ce que vous voulez vous annoncer. Mais aujourd'hui, cet après-midi, je vais vous parler d'Haïti. Différents aspects d'Haïti. Je vais commencer par un aspect peut-être plus difficile, l'aspect politique. Si je suis mon plan, ça serait, on va parler un peu de l'aspect social, et puis ensuite de l'aspect religieux. Et peut-être que si je ne suis pas trop bavard, je vais arriver facilement à l'aspect religieux, là, parce que c'est le plus important pour moi. Au niveau de l'aspect politique, il y a eu des après le tremblement de terre, il devait y avoir aussi des élections. Il y a eu des élections et le président Martelly a été élu. C'est un chanteur. Il a été élu par une bonne partie de la population, 60% de la population, quand il y a eu un deuxième tour de scrutin. Et tout ça, ça a pris bien du temps. Le président, normalement, vous savez qu'un gouvernement, en Haïti, il y a un président, puis à côté, il y a un premier ministre, avec des ministres, les ministres d'éducation, les ministres de ci et de ça. Mais le président, normalement, il faut qu'il nomme un ministre et la nomination doit être, je dirais, acceptée par les députés et les sénateurs. Et les députés et les sénateurs aussi ont été élus. Alors, tout ça, ça s'était fait au cours de l'année précédente. Et le président a présenté des candidats pour être premier ministre, des gens de bonne valeur. Mais vous savez, les sénateurs et les députés, c'était d'un autre parti politique. Alors, ils ne se sont pas entendus entre le président et puis les sénateurs. Donc, les sénateurs et les députés ont rejeté le premier candidat, un deuxième candidat. Au cours du mois de vers novembre dernier, finalement, ils se sont entendus. Ils ont dit un premier ministre, ça va être M. Attel. Et au bout de 3 mois, celui-là a démissionné parce que c'est pas gouvernable. C'est pas gouvernable. Alors, on se retrouvait encore sans premier ministre, sans gouvernement. Et c'est simplement au mois de mai dernier qu'il y a eu un premier ministre. Je pense que là, c'est plus tard. Plus tard. Mais regardez, il n'y avait pas de gouvernement pour dire allez, il faut reconstruire. Mais comment reconstruire? D'une façon internationale, je dirais, la communauté internationale avec Haïti avait un plan, à mes yeux, bien correct. La communauté internationale mettait en disponibilité à peu près 2 milliards d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais comment organiser ça? Alors, ils ont dit, il va y avoir une sorte de groupe, et puis la moitié de ce groupe-là va être des Haïtiens, puis l'autre moitié va être des étrangers. Et il y avait un président haïtien, président, et celui qui était il y a deux co-présidents. Un des co-présidents, c'était Bill Clinton. Donc, c'est une personne prestigieuse. Et il y avait des gens qui étaient nommés par les gouvernements donateurs. Le Canada avait un représentant, et puis bon, la France et tout ça. Donc, il y avait un groupe qui représentait l'extérieur d'Haïti, puis un autre groupe qui représentait l'intérieur d'Haïti, et celui qui était président de ce groupe-là, co-président, on pourrait dire, c'était le premier ministre. Et puis ensuite, il y avait des représentants d'Haïti, ceux qui s'occupaient de l'éducation, de l'université, du commerce, l'industrie, et puis tout ça. Mais le co-président du groupe haïtien, c'était le premier ministre. Mais avant les élections, ça se retrouvait un premier ministre qui n'avait plus de pouvoir. Il n'était pas capable de dire, ben voici qu'est-ce que Haïti a décidé. Il se retrouvait sans pouvoir. Et puis après les élections de Martelly, pendant 8 mois, il n'y a pas eu de premier ministre. Or, je dirais, ce mécanisme-là de reconstruction ne pouvait pas fonctionner. Bon, espérons que ça va être capable d'être mis en marche pour la reconstruction, principalement des édifices du gouvernement, le palais national, les édifices du gouvernement, qui ont été beaucoup affectés. Le tremblement de terre, c'était très cruel pour le pays. Tantôt, j'en parlais pour l'Église, mais pour le pays, ça a été cruel. Le palais national s'est effondré. Même une maison pour accueillir le président, ce qu'on pourrait dire, une maison d'office, s'est effondrée. Le président a pu dire, moi aussi, je suis sans abri. Beaucoup de ministres sont morts, des fonctionnaires, des édifices qui sont détruits. Et les édifices, ça veut dire tous les fichiers, la documentation, on repart avec quoi? Bon. Alors, juste pour dire que le pays qui, avant, était un peu désorganisé, il l'était encore plus après le tremblement de terre. Donc, il fallait comment repartir pour la reconstruction. Je pense que c'est en bonne voie pour la reconstruction d'édifices gouvernementaux. Maintenant, quand est arrivé le tremblement de terre, les gens ont été très généreux, j'en reviendrai tantôt aussi là, sur ça. Et puis, on ne donne pas l'argent tout de suite, on dit, présentez-nous un plan, on va vous donner de l'argent. Puis comme il n'y avait pas de plan qui était présenté, l'argent n'a pas été donné tout de suite. Mais à mesure que, d'une manière internationale, ça se passait, il y a des pays qui ont commencé à vivre des crises financières, on n'a plus d'argent. C'est un peu comme si, probablement, que les sommes d'argent qui vont être données vont être moins nombreuses à cause de ça. Donc, mais au niveau politique, donc, on pourrait dire, ça marche lentement. En créole, on va dire petit, petit. Comment ça va? Petit, petit. Ça veut dire, c'est ça. Alors, ça, c'est la réalité d'Haïti. J'ai l'impression que les étrangers, comme moi et les autres, on est plus impatients que les Haïtiens eux-mêmes. Ils ont de la patience. Ils ont de la patience. Ça fait partie de leur mentalité. Puis bon. Alors ça, c'est la dimension politique. Je ne veux pas entrer trop dans ça. La dimension sociale, Haïti, c'est le pays le plus pauvre là-bas. Il y a beaucoup de chômage. Il y a des sections du pays qui sont, entre autres, par rapport au prince, de grande, grande misère. Les habitations, il n'y avait pas de canalisation, les toilettes, les gens faisaient les besoins un peu partout. C'est vrai, avant, après le tremblement de terre, c'est un peu différent. Mais, je dirais, cette portion de misère, on dirait que les organisations internationales sont là pour aider. Créer des centres de santé, créer des petites écoles, mettre Alors, il y a comme... ceux-là, on va essayer de les aider le plus. Bon, est-ce que ça va réussir, on espère. Il reste encore beaucoup de violence. Peut-être bien moins que dans d'autres pays. Quand on entend parler de la violence au Mexique, c'est encore bien vu. Mais quand même, ça reste un piège. Tout pays qui est pauvre risque de subir de la violence parce que quand on est pauvre, on veut voler. il y a la communauté internationale qui apporte une aide de stabilisation, ce qu'on appelle chez nous la MINUSMA. C'est des soldats. Et la MINUSMA, il y a deux tranches. Une pour je dirais, la sécurité militaire, si on peut dire, policière. Puis on les voit circuler avec des gros camions blancs, et puis tu as des gens du Mexique, des soldats du Brésil, et puis d'autres pays, qui sont avec des uniformes, pour stabiliser le pays. S'il y a des émeutes quelque part, des troubles, ils sont là, pour appuyer la police nationale. C'est la police nationale qui est là, le plus important. Mais il y a une autre portion de la MINUSMA, c'est non pas des chars, des milices militaires, mais des tracteurs. Alors il y a toute une portion pour soutenir le relèvement du pays, l'agriculture. Donc, et ça, ce n'est pas des militaires, mais c'est des architectes, ou c'est des ceux qui s'occupent des cultivateurs, là. C'est des agriculteurs. Des agronomes. Merci. Donc, il y a de l'aide internationale. Bon, je reviens au plan social. Il y a une classe sociale qui est pas très, très, très extrêmement pauvre, mais qui est pauvre. Et qui tire le diable par la queue. Parmi ceux-là, il y a des gens, les produits. C'est étonnant de voir aussi comment les Haïtiens sont pleins d'initiatives. Ils tirent le diable par la queue. Et puis, ils savent se contenter de peu de choses. Mais quand même, ils vivent pauvrement. Et c'est ceux-là qui peuvent, à un moment donné, manquer de nourriture. Là aussi. Ici, tout le monde se plaint que le coût de la vie augmente. Là-bas, c'est vrai. C'est vrai. Le riz augmente, donc, puis les salaires augmentent pas, ou les sources de revenus augmentent pas. Très souvent, cette portion de la population se fait aider par d'autres Haïtiens qui sont au Canada ou aux États-Unis. Des gens au Canada ou aux États-Unis qui envoient de l'argent. Bon, je vais envoyer de l'argent à ma soeur, à des enfants, puis je vais payer pour qu'elle puisse envoyer son enfant à l'école. Il est brillant, il va aller à l'école. Et puis, on peut faire transférer de l'argent du Canada et pour que ça aboutisse par de la nourriture, il va aller vous livrer un sac de riz. Mais c'est vrai, du Canada, des États-Unis, mais aux États-Unis, d'une façon spéciale, il y a de plus en plus de chômage, plus que 10%. Et ceux qui sont affectés, c'est les petits travailleurs, et beaucoup d'Haïtiens étaient par les petits travailleurs. Donc, s'ils sont en chômage, ils ne peuvent pas envoyer d'argent. C'est une des réalités. Ils sont plus pauvres parce que les gens qui les aidaient ne peuvent plus les aider. Les familles, la solidarité de famille, c'est pas par mauvaise volonté, mais ils ne sont plus capables. Près de chez moi, ici à Montréal, au Canada, il y a mon coiffeur qui disait « Ah, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a là ?» C'est un bureau de change, là. Et puis il dit « Il y a certains jours, c'est plein d'Haïtiens, c'est noir de monde là, dans ce coin-là. » Ben je dis « C'est ça. » Ça va déposer d'argent pour que ce soit envoyé à l'Haïti. C'est une des réalités du peuple haïtien, la solidarité de famille. Mais aussi, dans une classe sociale, on peut dire qu'il y a une classe moyenne de ceux qui ont réussi à faire des études. Ceux-là, on peut retrouver des gens qui sont capables, parmi ceux-là, peut-être les professionnels, les médecins, c'est parmi les riches là-bas. Mais pas les très riches. Les très riches, c'est les industriels, les commerçants, qui peuvent apporter aussi une stabilité. Mais donc, il y a une classe qui est très, très riche. Les gens assez à l'aise, médecins professionnels. En dessous, les gens qui s'occupent des professeurs, ils n'ont pas des gros salaires. Donc, ça fait un pays pauvre, relativement pauvre. Et ceux que j'aide, je pense que je vous l'ai dit, c'est plus de ceux de la catégorie un petit peu plus basse, là, pour aider pour l'école et puis pour parfois la nourriture, mais surtout pour les soins de santé. De l'aide de l'extérieur, dont j'ai parlé des aides qui sont données à la famille, aux familles, c'est mon oncle qui est là-bas, ma tante, puis mon fils, mon frère, tout ça, mais aussi des organisations internationales. Ça, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'on appelle ONG. Parmi ceux-là, qui sont des organisations qui viennent profiter. Mais il faut reconnaître qu'ils sont... C'est pas la majorité, et c'est pas de des organisations comme la Croix-Rouge, comme Médecins sans frontières, le CECI, par exemple, du Canada, qui, eux, sont vraiment à l'écoute des besoins, et des besoins, parfois des besoins d'urgence. Alors, après le tremblement de terre, il y a eu des urgences. Plus rien. Ta maison est effondrée, depuis d'endroits, il faut que tu aies de la nourriture, il faut que tu aies un logement. Mais dans les premiers jours, il y a des choses aussi fondamentales que des toilettes. Imaginez, tu as peut-être la moitié de la population, 1 million de personnes qui est sans abri. Toute la réalité des toilettes, la réalité de la nourriture. Et comme je vais tout est désorganisé, le danger d'épidémie, ben à cause des ONG, je dirais que ça a été assez bien géré qu'il n'y a pas eu d'épidémie. Il y a eu l'épidémie de choléra, mais ça, c'était dans les montagnes, parce que, bon, il y a un cours d'eau qui a été contaminé, mais comme dans les montagnes, les gens n'avaient pas, je dirais, les traditions d'hygiène, ben ça s'est transmis rapidement. Dans le cas du choléra, donc c'était en dehors de Port-au-Prince, à Port-au-Prince, on n'a presque pas été touché, parce que le choléra, pas le choléra, le choléra, c'est ça. Le choléra, quand tu attrapes le choléra, si tu vas voir un médecin à l'intérieur des premières heures, c'est presque guéri. Ils vont te donner un médicament, c'est comme si c'était fini. Mais si c'est loin, là, le choléra va faire des morts assez rapides, dans le temps d'une journée, deux jours. Donc, ceux qui étaient à Port-au-Prince, dans les campements, eux autres ont été, quand ils étaient malades, malaria, une diarrhée, puis tout ça, là, ils pouvaient aller dans un centre de santé et y être aidés tout seul. Les Médecins sans frontières ont fait un très beau travail. Très beau travail. Médecins sans frontières, finalement, pour ça, là, c'était un peu comme des équipes volontaires. Quand ils entendaient parler que dans une portion du pays, il y avait la malaria, pendant de 2-3 jours, ils s'organisaient et ils allaient apporter des premiers soins. Donc, si tu apportes les premiers soins rapidement, tu évites la propagation puis tu évites beaucoup de morts. Alors, Médecins sans frontières a été et est encore extrêmement important dans le pays. Le problème avec les organisations internationales, c'est que comme le pays n'a pas de gouvernement, chacun faisait un peu ce qu'il voulait faire. Alors, il y avait manqué de coordination, c'est la grande difficulté qu'on a rencontrée après le tremblement de terre. Donc, les ONG, le Canada par exemple, le Canada a apporté beaucoup d'aide. Il a apporté de l'aide pour appuyer toute la question de la sécurité. Nous autres, on dit que la sécurité, c'est à beaucoup de niveaux. Hein. La sécurité, c'est d'arrêter ceux qui font la grabuge, les vols et tout ça, c'est la police. Mais quand quelqu'un est arrêté, il faut le mettre quelque part. Et puis après ça, il faut le juger. Puis donc, la réalité de la sécurité et de la justice, c'est très très large. Le Canada a voulu faire sa contribution pour la sécurité et la justice. Ils ont construit à différents endroits des commissariats de police solides, ne sont pas attaqués par une personne qui se présente, c'est ça. Ils ont construit aussi une prison. La devise, il en faut une prison. Et une prison assez salée, puis, comment je dirais, assez capable de se défendre. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui peut venir et qui ouvre les portes. Au tremblement de terre, quand il y a eu le tremblement de terre, je dirais, les portes se sont ouvertes et les prisonniers sont partis. Et les gens qui étaient condamnés à mort, ils sont partis pour continuer. Alors, ça a mis, en plus du tremblement de terre lui-même, ça a mis le climat d'insécurité à cause des bandits qui étaient là à travers le monde. Le Canada aussi aidé des groupes canadiens. De façon toute spéciale, je suis conscient de je connais la communauté des missionnaires de Christ-Roi qui sont responsables de l'hôpital du Cardinal Léger. Hôpital Cardinal Léger. Qui est un hôpital qui a été construit, j'ai peut-être 25 ans, je ne sais pas si vous connaissez le Cardinal Léger, lui qui s'était consacré aux lépreux. Vous connaissez? À Montréal, le Cardinal Léger, tout le monde le connaît. Et l'hôpital avait été confié aux sœurs missionnaires du Christ-Roi de fondation de la Gaspésie et tout ça. Et au tremblement de terre, là, l'hôpital s'est abîmé. Le gouvernement canadien a aidé à la reconstruction de l'hôpital. Les missionnaires de Immaculée-Conception, une école qui avait le Canada a aidé à la reconstruction de l'école. Donc, c'est un peu comme s'ils venaient appuyer l'œuvre des Canadiens, les Canadiennes qui étaient là. Donc, ça, c'est important de savoir l'aide internationale. J'ai de l'admiration pour cette organisation. Après le tremblement de terre, puis encore aujourd'hui. Souvent, les gens vont dire, oui, mais on a donné de l'argent, et puis il n'y a rien qui est reconstruit. Mais l'argent, souvent, qui a été donné, c'est pour distribuer la nourriture, pour organiser les centres de santé, pour organiser les abris. Hein. Oui, ça, c'est le moment de vous parler de... Après le tremblement de terre, il y a eu des campements. Dans tous les espaces qui étaient libres ont été envahis par des tentes et tout ça, des cabanes et tout ça. Il fallait se loger quelque part. Dans les jours, les mois qui ont suivi le tremblement de terre, tu pouvais avoir des rues, par exemple, chez moi, il y a une portion de la rue qui était envahie par des tentes. Et juste à côté, tu avais un parc envahi par des tentes et puis des cabanes et tout ça. Et là où tu as des tentes, des cabanes, il fallait établir un système de toilettes. Ben, tu avais une ONG qui venait vider les toilettes. Tu étais responsable des toilettes parce que bon, il faut les vider, ces toilettes-là. Donc, ça supposait une organisation. Et dans les campements, il y avait de l'eau qui apportait de l'eau, qui fournissait de l'eau. Il y a aussi des cliniques médicales qui étaient proches de la disposition. Mais après deux ans, mais il y avait encore ces maisons-là, puis ces tentes-là. Beaucoup étaient abîmés. Puis il y avait des gens qui demeuraient là. Or, le président a dit, il faut les enlever, ces tentes-là. Tout le monde le disait. Hein. Et juste à côté du Palais national, tu avais un immense parc, immense. T'as plein de tentes, de cabanes, et puis avec tout ce que ça suppose, les toilettes, la senteur, et tout ça. Un président à Noël, il dit, on va avoir une fête de Noël à l'été, ça va être la fête des fleurs, et puis il n'y aura plus de campement, il n'y aura plus de temps dans le champ de mars. Et quand je suis parti, c'était en train d'être bon. Mais juste à côté de chez nous, il y a eu un petit parc et ça a été fait. Et puis, bon, il n'y avait plus de temps, puis il y a eu des fleurs, des plantes. Ce qui est quand tu changes, quand ton environnement devient plus beau, tu es plus content, plus heureux. Alors, l'absence des campements ou la disparition des campements, ça a été important. Il y a aussi des organisations. On avait plus d'électricité. À la fin, on avait 70% du temps. de l'électricité peut-être pendant 16 heures, 17 heures, des fois pas d'électricité pendant 24 heures, mais c'est plutôt rare. Maintenant, on avait de l'eau plus régulièrement. Pensez pas qu'on a de l'eau comme ici, là. On a de l'eau, ils vont donner de l'eau le matin. Et puis pendant que l'eau va circuler, comme les tuyaux sont souvent percés, de l'eau qui ressort un peu partout, mais il remplit les citernes. Les maisons ont, au niveau du sol, des citernes. Et on remplit les citernes. Et les gens, une fois que les citernes sont remplies, ben, on les fait monter l'eau sur des châteaux d'eau sur des toits. Ça, c'est pour des maisons un peu plus organisées. Et puis une fois que l'eau est sur les toits, c'est un peu comme l'eau courante qu'on a ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une organisation. Pour ce qui est des écoles, les écoles sont, après le tremblement de terre, ont été comme eu des abris temporaires. Et maintenant, ils sont en train de construire des écoles, comme ils disent, pendues du ciment, à l'abri des tremblements de terre. Pour ce qui est des campements, je reviens. Je pense que si je vous ai écrit une lettre, parce que vous l'avez écrit, où est-ce qu'ils sont allés, ceux qui étaient sous les tentes? Ceux qui étaient sous les tentes avaient peut-être, avant le tremblement de terre, des petites maisons en ciment. Et puis, mais il y avait un terrain. Et quand arrivé le tremblement de terre, ben, la maison s'est effondrée, la dalle de béton qui est sur le toit s'est tombée. Il y a peut-être des morts, mais bon. Mais si moi, j'avais cette petite maison qui était effondrée, après le tremblement de terre, ben, je suis allé vivre dans des temps. J'ai pris le temps de déblayer mon terrain, mais je n'ai pas assez d'argent pour reconstruire. Il y a un organisme international qui a dit, nous autres, on va vous donner Catholic Relief Service, CRS. C'est les catholiques des États-Unis en particulier, ils ont fait quelque chose de beaucoup. Mais eux autres disent, on va vous donner des abris temporaires, donnez. Et si vous nous prouvez que vous êtes propriétaire de votre terrain, on va aller construire un abri temporaire. Et les gens arrivaient avec une équipe, faisaient une dalle de ciment sur le terrain. Puis là, ils montaient une charpente en bois, des préfabriqués, mettaient un toit de tôle. Et puis, les murs, c'était en plastique épais, à l'abri des vents, des cimes. Et puis, c'était à l'abri des tremblements de terre, puis à l'abri des cimes. Et puis si quelqu'un dit, bon ben je vais avoir quelque chose un peu plus longtemps, ben là, ils vont enlever les toits de plastique, puis ils vont mettre des contreplaqués. Mais au total, ces maisons-là sont prévues pour 3-4 ans. C'est vraiment d'urgence. Hein. Et si moi je n'ai pas de terrain, mais qu'ils me disent, ben il faut que tu quittes le campement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben ils ont donné de l'argent à ceux qui n'avaient pas de terrain. Et qui devait leur donner l'équivalent de 500 $ américains. Bon, c'est une bonne somme d'argent. Puis bon, avec ça, ils sont débrouillés, ou devaient se débrouiller, peut-être. Mais au fond, c'est un moyen, je pense, de nettoyer, je dirais, cette réalité-là, d'enlever cette réalité-là. Bon, mais on ne sait pas si tout le monde a été bien logé après. Bon, je vous parle un petit peu de la société. Je vais vous parler de l'Église. L'Église a été beaucoup, beaucoup affectée par le tremblement de terre. Bon, comme tout le peuple, la cathédrale s'est effondrée. Beaucoup d'églises, 5-6 églises, sont effondrées à Port-au-Prince. D'autres ont été dévastés, c'est plein de fissures. Bon, celles-là, ces églises-là, on a pu les réparer, puis devenir des églises ouvertes. Par exemple, il y a le jeune prêtre qui a été ordonné, donc Franz Doucet, lui a été ordonné dans une église qui avait été réparée, l'église de Saint-Pierre, parce que la cathédrale est encore effondré, on voit juste les murs. Donc, les églises se sont effondrées, les presbytères se sont effondrés, beaucoup, les écoles, les centres de santé. Donc, l'église a été beaucoup affectée. L'archevêque est mort. Il est mort d'une façon étonnante. Il n'a pas été écrasé par le tremblement de terre. C'est quand est arrivé le tremblement de terre, il a été projeté. Et il est tombé en dehors de l'édifice, là. Puis, ben, ils l'ont trouvé mort comme ça. Et c'est une des premières nouvelles qu'on a eues du tremblement de terre. Monseigneur Mignon est mort. Donc, l'évêque, l'archevêque, et puis une cinquantaine de prêtres et de religieux, religieuses. Communauté des Montfortin avait un véhicule qui amenait les étudiants en théologie, étaient dans la camionnette parce qu'ils venaient de suivre une session de conférence. Et puis, un édifice est tombé sur le véhicule, et 8 ou 10 scolastiques qui sont morts d'un coup pour une communauté, c'est gros. Hein. 3, 4, la communauté des filles de Marie, une douzaine de sœurs. C'est des chocs psychologiques, mais aussi, il faut partir des hommes. Donc, le tremblement de terre a beaucoup affecté, mais en même temps, il y a quelque chose qui a été comme un défi. L'édifice s'est effondré. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut continuer d'avoir des messes. Alors là, ils ont fait des abris qui sont temporaires. Et avant de construire une église, on ne construit pas une église le mois suivant. Et puis bon, alors, ils ont fait des abris temporaires qui sont appelés à durer peut-être 4-5 ans, mais c'est des toits de tôle et puis un peu des toits d'étoiles. Mais à mesure que ça dure, les toiles se défont et puis bon, il faut mettre. Mais. Et puis, bon, ben là, c'est plus des messes solennelles avec l'encens, puis, ou des grands. C'est des messes solennelles, mais dans un endroit temporaire. Et j'ai trouvé ça très beau, parce que bon, ben, c'est plus l'église traditionnelle avec les cérémoniels qu'on pouvait se permettre. C'est des églises avec ce qu'on était capable de se permettre. Mais, la ferveur était là. Les gens étaient capables de se rassembler. Et tu pourras avoir un grand mariage, mais ça va se faire dans un abri temporaire. Alors, il y a comme je dirais, l'expérience d'une grande pauvreté, puis l'expérience d'une simplicité. Mais ça n'a pas enlevé la ferveur des gens. Ils sont repris, et puis bon, comme j'expliquais tantôt, la ferveur est là. Une messe de 2 heures, c'est pas exceptionnel, c'est fréquent. Et puis, une messe en moyenne là, de paroisse, c'est à peu près 1h30, 1h15. Et personne ne va se plaindre, au contraire. Et c'est ça qui est frappant pour nous, Québécois. C'est de voir comment ces messes-là sont pleines de vie. Dans une paroisse, ça, c'est toute la différence avec ici. Bon, d'abord, en Haïti, il y a des enfants. Et dans une paroisse, il y a beaucoup de groupes de jeunes, que ce soit des tout-petits, et puis bon, ben, mais des groupes, le MEJ, les Kiro, les scouts, la chorale, et les jeunes sont invités à participer à des activités de jeunes. Et chaque groupe de jeunes va avoir à faire une animation de messe par mois. Donc, les jeunes ont quelque chose à faire. Il y a la chorale qui chante, mais ils vont être responsables des lectures et de toute l'organisation du service de messe. Et puis les scouts vont être obligés vont chanter tout ça. Donc, les jeunes apprennent des chants, participent, et puis ça fait la vie, hein. Avec la guitare, avec les tambours. Il y a de la vie dans ça. Des jeunes enfants qui viennent à la messe, le papa, la maman avec les enfants, c'est très beau de voir ça. Bon, ce que je veux dire, c'est il y a dans le malheur qu'ils ont vécu une sorte de ferveur qui est persévérée et qui est admirable pour nous. Un prêtre qui va célébrer la messe là-bas, québécois qui vient célébrer la messe là-bas, c'est comme si c'était une grande messe, une messe spéciale pour moi. Maintenant, la réalité de l'Église catholique est différente de ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. L'Église catholique était très majoritaire avant. 80% c'était des catholiques. Mais depuis une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, tu as beaucoup de mouvements évangélistes qui sont établis. Et des mouvements évangélistes très combatifs, qui vont être très hostiles à l'Église catholique. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut admirer de ces mouvements-là. D'abord, ils ont été capables d'aller rejoindre le peuple haïtien par la musique. Dans la tradition pentecôtiste, là, les chants sont importants. Ils vont rejoindre les jeunes aussi. Mais ils vont être très hostiles à l'Église catholique parce que ils vont parler de Marie, ils vont parler de toutes les réalités de l'Église catholique qui peuvent être attaquées et qui se sont attaquées. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, le recrutement des prêtres, le recrutement dans les communautés religieuses. Ça, c'est important. Quand Franz Tousseur a été ordonné, il y a une ordination avec 8 prêtres dans un diocèse. Les autres diocèses, les diocèses plus petits, c'est peut-être 2 ou 3, mais ça, c'est sans compter les communautés religieuses qui ont peut-être 3, 4, les Oblats, les clercs serviteurs, les Saint-Croix ont facilement 3 ou 4 ordinations par année. Donc, je dirais, l'Église, au niveau des prêtres et du recrutement, il y a quand même une tradition qui se poursuit là. Les familles sont capables de donner des enfants. Il faut reconnaître qu'être prêtre aussi, c'est une élévation sociale. Il faut savoir, il ne faut pas devenir prêtre pour être au-dessus du peuple. Il faut être pour le service du peuple. Ça, c'est le discernement des vocations, mais quand même. Et quand on regarde cette réalité-là, on pourrait dire, d'une façon générale, en Haïti, tout est un peu, je dirais même parfois, beaucoup changeant. Le niveau politique, le niveau économique, le niveau social, mais l'Église, c'est comme une des seules institutions qui est encore très crédible, dans lesquelles le peuple a confiance. Confiance au sort, confiance au prêtre, confiance confiance aux religieux. Les collèges là-bas, qui sont des collèges qu'on appelle là-bas les collèges, les écoles congrégalistes, c'est des écoles de grande qualité. Les finissants de ces collèges-là peuvent facilement être acceptés soit au Canada, soit en France, par exemple, parce que c'est des très hauts, de très grande qualité. J'allais dire, oui, c'est des écoles de grand prestige, mais qui va à ces écoles-là? C'est vrai que c'est des enfants de familles riches. Il faut le reconnaître. Parce que ça va coûter de l'argent pour envoyer ces enfants à l'école. Mais en même temps, c'est des enfants des écoles de prestige, ils vont recevoir un enseignement important. Mais ces communautés religieuses qui reçoivent, qui font de l'argent avec les collèges de Port-au-Prince, ces communautés-là, cet argent-là qu'ils reçoivent, ça va être pour établir des écoles à la campagne et fournir des enseignants à la campagne. Donc, Bon, ce que je voulais dire, c'est que les communautés ont des écoles de grand prestige, ont aussi tout un réseau de services de santé, des religieux qui sont là, qui ont une expérience très très grande, qui ont la confiance de la population. Pour ce qui est des jésuites, vous me permettez que je parle un peu de ma paroisse. Hein? Les jésuites, bon, en personne, je pense que je vous l'ai dit, dans ma maison, il y a des jeunes jésuites, c'est-à-dire des jeunes qui veulent devenir jésuites. Ils ont 22, 23 ans, 24 ans, et qui ont fini leur cours, qui ont les diplômes, et puis qu'on accueille. Après un long discernement, il y a un jésuite par midi qui a l'expérience et qui est capable de savoir, celui qui vient frapper à la porte de Jésus, qu'est-ce que c'est le fond de son cœur? C'est-tu pour faire des études avec nous autres, des études de grande qualité? Ou bien si c'est pour être au service des gens. C'est-tu pour participer à une sorte de gloria des Jésus? Ou bien c'est pour... Alors, on fait un discernement. D'abord, on les invite à venir chez nous pendant un an. Puis on les regarde. Comment est-ce que ça commande dans la vie de communauté? Il y en a, vous savez, qui peuvent se sauver, hein? Quand c'est le temps de la vaisselle, on les retrouve. La communauté, est-ce qu'ils sont fidèles aux activités de la communauté? Est-ce qu'ils arrivent tout le temps quand ils sont activités? Et surtout, on les envoie enseigner dans des écoles pour les pauvres. Et ça, c'est le critère. Ça. S'ils reviennent avec nous en disant, tout heureux d'avoir enseigné à des jeunes, des enfants, puisque vous voyez, c'est des jeunes de 22, 23 ans avec des enfants de 8, 10, 12, 14 ans, hein, pour ces enfants-là, c'est des jeunes pleins d'énergie et tout ça. Alors les jeunes, les enfants aiment nos jeunes, puis nos jeunes sont pleins de alors sont professeurs de français, professeurs de catéchèse, surtout professeurs de français. Donc c'est une expérience de contact avec les pauvres. On fait aussi des discernements. Il y a quelqu'un qui donne l'accompagnement spirituel et des récollections. Donc, là, une formation spirituelle. Et moi, comme supérieur de la maison, je les rencontre une fois par semaine. Mais de quoi je vais parler? Je vais parler de la communauté. Qu'est-ce que c'est? Les jésuites, le père général, et puis bon, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Donc, c'est ma responsabilité de parler de la communauté à ces jeunes-là. Mais je dois vous avouer que je suis un petit peu. Je parle un peu de Jean Vanier, puis même un peu beaucoup de la spiritualité de Jean Vanier. Je parle de l'âge, des pauvres, et puis au fond, tout ce que j'ai reçu à travers l'âge, à travers foi et partage, je le transmets. Et ça, je dirais, c'est extrêmement important pour moi, c'est extrêmement important pour les autres aussi. À travers, je dirais, quand on parle de Jean Vanier, on a fait comprendre toute la dimension de la compassion, l'ouverture aux pauvres, l'ouverture aux petits. Et puis, bon, il y a une communauté de l'Arche, les amis à l'Arche, à Port-au-Prince. Et puis, donc, ça, c'est dans ma maison. Les jeunes, il y en avait 4 cette année, il y en a 3 qui sont acceptés pour entrer au mission. Et puis, bon, moi, juste pour vous dire le curriculum des jésuites, c'est 2 ans de noviciat. Après ça, c'est 4 ans de philosophie. Puis là, il y a un baccalauréat en philosophie. Et après ça, ils nous reviennent. Ils ont 28, 30 ans. Et pendant 2 ans, ils viennent travailler en Haïti. Les études de philosophie se font en République dominicaine ou en Colombie. Donc, après ces études de philosophie, ils reviennent chez nous. Et ils font 2 ans de travail dans nos œuvres, des œuvres de foi et lumière, non, de foi et joie, et service aux réfugiés ou d'autres choses. Donc, ils viennent pendant 2 ans, Ils retrouvent la réalité d'Haïti. Après ça, ils vont faire 4 ans de théologie. Cette année, il y en a 3 jésuites qui viennent étudier à Québec, qui viennent étudier la théologie. Il y en a 2 qui sont allés à Toronto pour étudier la théologie. Donc, et après ça, ils peuvent revenir travailler en Haïti pendant 1 année ou 2. Ils vont faire 1 année de spiritualité qu'on appelle un 3e. Et puis, bon, après ça, ils vont venir peut-être faire une spécialité un petit peu plus supérieure. Mais juste pour vous parler de cette formation-là. C'est toujours des jésuites. C'est toujours selon la spiritualité de Saint-Ignace. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Ignace, qui a fondé les jésuites, mais c'est un laïc. Je vais vous en parler. C'est un laïc qui n'avait pas fait d'études de théologie. Et, bon, c'est un militaire au point de départ. Et lui, quand il était jeune, il est allé à la cour d'Espagne, donc le prestige et puis la conquête des filles et puis bon, la carrière militaire. Alors, c'est ce qu'il habitait. Il est allé défendre, il participait à une guerre pour défendre son coin, son pays, puis il a été blessé. Et il a reçu un boulet sur une jambe. Puis là-bas, une fois qu'il a été blessé, tous les autres ont laissé tomber, puis bon, ben, la guerre a été finie. Et lui, il a été blessé, puis il a été transporté au château, chez lui. Et puis, ben, il s'ennuyait. Fait qu'il a demandé des livres. Lui, il aurait voulu avoir des livres qui racontent la chevalerie et puis les conquêtes. Puis, on trouvait 2 livres. Un livre, c'est l'histoire des saints. Et puis, l'autre livre, c'était l'équivalent de l'Évangile. Pas mal ennuyeux, ça, hein? Et, mais là, il a fait une expérience tout à fait fondamentale. Ben, ça ne l'a pas empêché de rêver à ses conquêtes. Puis quand il rêvait à ses conquêtes, ben là, il se trouvait plein de joie, plein d'élan, mais il s'est aperçu que une fois que cet élan-là est passé, ben, ça devenait plat. Mais il lisait les livres sur la vie des saints, puis il y avait Saint-François, Saint-Dominique, dont c'est la fête aujourd'hui, et puis il s'est dit, ben moi, je serais capable de faire la même chose, et encore bien mieux. Donc, il a commencé à regarder qu'est-ce que c'est Jésus, et suivre Jésus, à sa manière à lui. Suivre Jésus, ça pourrait être, c'était pour lui, pour être plus que les autres. Il y a plein d'orgueil. Le Seigneur a passé par là. Mais une des choses qui s'est aperçue, c'est que quand il disait la vie des saints, là, il était plein de joie. Et quand il cessait de penser à la vie des saints, la joie durait. Au début, on n'est pas aperçu, mais là, il a commencé à faire une réflexion sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Il y a à l'intérieur de moi quelque chose qui m'indique le chemin que Dieu veut pour moi. Et c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits, ce mot, et l'attention, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est un laïc, ça. C'est un laïc. Et puis, bon, ben là, il a voulu suivre Jésus, et il est allé s'habiller en pauvre, et puis, bon, il a fait des excès, parce que des excès de pénitence, puis, bon, au point qu'il en est presque tombé malade, fait une dépression, mais il s'est aperçu que, ben là, c'était trop. Hein, ça, vraiment, c'est ça, c'est pour ça, ça. Et il s'est retiré à un endroit, puis là, il y a eu une expérience spirituelle fondamentale. Fondamental. C'est un peu comme si tout devenait clair pour lui. Quand il en parle, c'est comme si quelque chose de la Trinité se révélait en lui. C'est un cadeau, un don. Et puis, il était tellement enthousiaste qu'il a voulu partager son enthousiasme avec d'autres laïcs. Mais les autour se sont dit, mais oui, mais t'es juste un laïc, t'as pas fait d'études. Et puis, ben, entre autres, c'est le temps, c'était le temps de l'Inquisition, puis là, ils sont allés examiner son petit livre qu'il avait écrit, qui s'appelait « Les exercices spirituels », et dans lequel il donnait un cheminement à suivre. Et puis, ce petit livre-là a été examiné. Il n'y avait rien d'hérité, mais il n'y avait pas le droit, parce qu'il n'avait pas fait du tout. Et donc, il s'est dit, c'est peut-être le chemin que le bon Dieu veut pour moi, que je fasse des études. Or, il a commencé à faire des études, à apprendre à 35 ans, à apprendre le latin, puis faire ses études. Il est allé à Paris aussi pour faire ses études, pour supérieur. Et là, il a rencontré, on dirait aujourd'hui, il a été coloc. Coloc. Et puis, bon, dans son appartement, il y avait un jeune fier, nommé François-Xavier, fier. Et puis, un prêtre aussi, Pierre Fabre. Puis lui, 35 ans, qui boitait. Alors, Ignace a commencé à parler avec Pierre Fabre de son petit livre. Puis, Pierre Fabre s'est laissé convaincre. Mais François-Xavier, pouf, mon cher, ce vieillard-là qui boit, hein, qui est en train de me présenter François-Xavier, un mur. Tout à coup, Pierre Fabre s'est allé sans doute pendant un an. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais François-Xavier a été touché. Puis c'est là qu'a commencé, au fond, les débuts des Jésuites. Il était trois, puis après ça, ben, Ignace a parlé à d'autres. Finalement, il était 7-8, et puis ils ont consacré leur vie à Dieu. Et c'était pas d'abord faire une communauté, mais consacrer leur vie à Dieu. C'est ça. Quelques années après, le pape a dit, mais faites une communauté, vous voyez, puis c'est comme ça qu'a commencé les Jésuites. Où est-ce que je suis rendu, donc? Je suis en train de parler des Jésuites, là. Excusez. Ah, ben, juste pour vous dire, c'est au fond l'expérience fondamentale que Saint-Ignace a faite et que les premiers Jésuites ont fait, François-Xavier. François-Xavier, je ne sais pas si vous connaissez François-Xavier. François-Xavier, c'est un des premiers compagnons, et puis ben, il est allé jusqu'au... Saint-Ignace l'a envoyé, il est allé jusqu'au Japon, et puis il voulait rentrer en Chine, et il est mort tout seul. C'est le patron des missionnaires. Patron avec qui? Ah, ben voilà, le petit Thérèse revient ici, là. Donc, ça a été le début des Jésuites. Mais chacun a fait une expérience spirituelle, et aujourd'hui, ce que nous, on désire, c'est pour ceux qui rentrent chez les Jésuites, refassent cette expérience spirituelle. C'est pas d'abord une structure qu'on veut leur passer, une sorte de, à force d'être militaire, de passer de recette, c'est une spiritualité, selon la tradition de Saint-Ignace. La tradition est tellement importante pour nous, mais elle est importante aussi pour l'Église. Il y a beaucoup de communautés religieuses, même de communautés de religieux, qui s'inspirent de la tradition ignatienne. Il y a un jeune dominicain de l'ordre de Saint-Dominique qui m'a dit, j'aimerais faire les exercices spirituels de Saint-Ignace. Mais je dis, écoute, toi, tu as toute ta tradition. Il m'a dit, écoute, Saint Thomas d'Aquin, vous connaissez Saint Thomas d'Aquin, qui est un théologien, qui a écrit des livres, des sommes théologiques, dit Saint Thomas d'Aquin n'appartient pas au Dominicain. C'est un Dominicain, mais il appartient à l'Église. Les exercices spirituels n'appartiennent pas au Jésus. Les exercices spirituels de Saint-Ignace appartiennent à l'Église. C'est un trésor de l'Église. Ce qui appartient aux Jésuites, c'est les constitutions de la communauté, ça vous garde et tout ça. Mais les exercices spirituels, c'est plus large que la communauté. Donc, ce que je veux vous dire, c'est les exercices spirituels de Saint-Ignace, c'est la base de toute notre spiritualité. Et quand on est novice, on fait une retraite de 30 jours. Et quand on a 35 ans, 40 ans, moi je l'ai fait à 40 ans, on fait une deuxième fois les exercices spirituels de Saint-Ignace. C'est complètement différent. À 40 ans, bon, j'étais ordonné prêtre depuis 5 ans, 6 ans. J'avais eu des échecs, j'avais eu des succès. Alors, je connaissais mes forces beaucoup mieux. À ce moment-là, c'est beaucoup plus, je dirais, significatif de donner sa vie. Quand tu as 20 ans, tu donnes sa vie, mais tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu donnes. C'est à travers 25 ans, 30 ans, tu as sacrifié des choses, et puis bon, ben, le désir d'une famille pour avoir émergé, ben, il faut avoir choisi, et puis ben, 30, quand tu as 30 ans, 35 ans, c'est un peu plus de volonté, ou de vue d'obéissance, ça a plus de sens, et puis bon. Alors, faire les exercices à 40 ans, si tu donnes ta vie à Dieu. Et bien, c'est ce que j'ai fait aussi. Et je dois vous avouer, ça a été c'est peut-être un petit secret que je veux vous dire. C'est peut-être été dans cette retraite-là que j'ai choisi quelque chose qui a abouti, au fond, à demeurer en Basse-Ville, à Québec, à aller à l'âge et à être à foi et partage. Alors, c'était, personnellement, quelque chose de très, très important. Je reviens aux Jésuites et des œuvres. En Haïti, il y a deux œuvres importantes. Une œuvre qui s'attache à l'éducation, une éducation plus différente, des écoles, foi et joie. C'est une tradition qui vient de l'Amérique du Sud, ça fait 5 ans, de l'Amérique du Sud, là-bas. Et c'est de fonder des écoles, mais avec la participation de la communauté locale. Vous voulez une école, on va vous aider. Peut-être on va vous aider pour la construction, mais je dirais, vivez quelque chose collectivement pour demander, faire une demande d'école, et puis on va vous appuyer, on va vous aider. On va vous aider à former des professeurs, puis, mais avec tout temps un souci que ce soit la collectivité. Alors, il y a quelque chose d'un peu intégral, c'est pas comme une communauté religieuse qui va dans un village puis qui ouvre une école. Non, c'est la collectivité de ce lieu-là qui demande une école, qui fait des démarches, mais il y a toute une philosophie, une pédagogie qui est très spéciale. Être attentif aux pauvres, et spécialement ce type d'œuvre-là, c'est pour les pauvres à la campagne ou les pauvres en ville, les très pauvres. Ça, c'est la première œuvre. L'autre œuvre qui s'attache davantage aux réfugiés et aux migrants. Il y a deux réalités bien différentes. Avec le tremblement de terre, il y avait des campements. Et des campements qui ressemblent beaucoup dans des camps de réfugiés, vous savez, les bons people, et puis bon, en Afrique, on voit des camps de réfugiés, 50 000 personnes. Donc, après le tremblement de terre, il y a quelque chose qui ressemblait à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a toute une partie de notre œuvre, c'est de travailler, d'avoir travaillé auprès des pauvres dans les campements, les familles, et d'une façon toute spéciale, à être attentif à qu'est-ce que les enfants peuvent vivre, les femmes et les filles peuvent vivre. Vous savez, quand tu vis dans une tente, tu n'es pas bien protégé. Une tente, tu assures, tu es capable de déchirer ça, puis attaquer. Or, dans des campements, il y a eu beaucoup de réalités de viol. Comment soutenir, comment contrer ça. Donc, c'est une attention qu'on a portée aux enfants et aux femmes et aux filles. Puis aussi toute l'éducation dans les campements. L'autre réalité pour les Jésuites, c'est de s'occuper de ceux qui, des Haïtiens, qui s'en vont travailler en République dominicaine et qui sont exploités. Et ce n'est pas strictement des réfugiés, mais ce qu'on appelle des migrants. Ils vont travailler en République dominicaine, ils vont travailler dans les cannes à sucre, ce qu'on appelle les batailles. Et parfois, bien souvent, ils sont exploités. De différentes façons. Un monsieur travaille pendant, 3 mois, 4 mois, Et puis ben, maintenant, il doit retourner en Haïti avec son salaire. Ou bien, s'il est sans papier, le propriétaire appelle la police ou appelle l'armée. Et puis ben, l'armée vient, puis bon, il ramasse les sans-papiers, mais le propriétaire n'a pas rendu salaire. Ils vont payer un peu les militaires parce que. Mais ceux-là sont venus travailler pendant 3 mois, 4 mois, n'ont pas de salaire. Ils sont retrouvés dans un camion là, en Haïti. Ou d'autres qui ont reçu un salaire, puis là, qui partent de l'endroit, puis à travers les autobus, finissent par rentrer en Haïti. Mais à différents endroits, il y a des contrôles policiers. Puis à chacun des contrôles, les policiers demandent une somme d'argent. Si bien que quelqu'un qui arrive à la frontière, ils n'auront pas beaucoup d'argent, ou ils n'ont plus rien. Et notre travail à nous, d'une part en Haïti, c'est de recevoir ces gens-là, mais aussi le travail des jésuites de la République dominicaine. Excusez, ça fait jésuite dominicaine. Il ne faut pas mêler trop. Les jésuites de la République dominicaine, un des ministères, c'est auprès des Haïtiens, qui sont parmi les plus pauvres. Le gouvernement ici, le gouvernement de la République dominicaine, je dirais, ne respecte pas les propres lois qu'ils ont. Par exemple, une famille qui a une femme, un papa, un homme, une femme, un enfant en République dominicaine, bien souvent, l'enfant n'a aucun certificat de naissance. Donc, il n'a aucune nationalité. Et s'il n'a aucune nationalité, il ne peut pas avoir les services de l'école, il peut pas avoir. Les jésuites de la République dominicaine font des efforts au niveau de la loi, font des efforts s'il y en a qui ont été abusés, s'il y en a. Donc, pour que les Haïtiens soient reconnus au niveau de la loi, c'est ce qu'on appelle les services des plaidoyers. S'ils ont été abusés, il faut envoyer des gens pour se présenter devant la loi. Ce qui est amené, c'est que l'ensemble des jésuites à travers le monde ont fait connaître qu'au fond, il y avait une injustice. Des enfants qui étaient nés en République dominicaine n'étaient pas reconnus comme des Dominicains. Il n'y avait aucune nationalité. Donc, au niveau international, on a fait une sorte de publicité. Finalement, le gouvernement dominicain a fait une loi. Oui, on reconnaît que ceux qui sont nés sur la terre dominicaine sont des Dominicains. Mais au niveau de, je dirais, tu sais, bon ben là, parce que là, j'ai mon élève, on va me faire inscrire, et puis le monsieur refuse d'inscrire un haïtien. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il y a la loi, mais l'application de la loi. Bon. Juste pour dire que les jésuites en Haïti ont ce souci d'être au service de ceux qui sont les plus pauvres. Bon, on revient en Haïti, quand les jésuites, quand les dominicains, quand les Haïtiens travailleurs reviennent, ils sont souvent dépourvus, ils n'ont plus d'argent pour aller à Algérie, ils n'ont plus d'argent pour. Et puis, bon, là, ils arrivent par groupe de 50 ou de 100. Alors, comment les recevoir? Les jésuites ont un travail d'accueil et aussi de plaidoirie. Le travail de plaidoirie, c'est un peu comme si ces gens-là sont trop pauvres, ils n'ont pas d'avocat. Mais qui va se faire avocat? Alors, c'est un peu ça ce qu'on appelle, nous autres, notre rôle de plaidoirie au niveau. On cherche à connaître les lois d'Haïti et à connaître les lois de Dominicain et faire des pressions sur le gouvernement haïtien et faire des pressions sur le gouvernement dominicain. Donc, juste pour dire que je dirais, le souci des pauvres qui est là chez les jésuites, d'une façon toute spéciale, le souci des pauvres, on cherche à les vivre de cette façon-là. Alors, je reviens à moi, juste pour dire que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai peut-être un peu d'âge, 60, 76 ans, mais c'est plein de vie à être en Haïti. Auprès des Dominicains, auprès des jeunes jésuites, dans ma maison, puis je regarde le travail que la communauté jésuite fait, c'est un travail qui, ça vaut la peine de faire partie de ce gang-là. Donc, il y a une dynamique, il y a une joie, mais d'être avec aussi le peuple haïtien. C'est un peuple plein de courage, plein d'élan, plein de ferveur. Je pense que je l'ai dit, le peuple haïtien, ceux qui voient le peuple haïtien, après le tremblement de terre, beaucoup l'ont dit, c'est un peuple plein de force, de courage, plein de résilience. C'est un terme psychologique. Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, résilience? Hein? Vous avez déjà entendu? C'est au fond quelqu'un qui est dans la souffrance, dans le malheur, qui est capable de garder l'élan, la joie et de découvrir qu'il y a de la vie. C'est un terme psychologique et puis qu'on a appliqué, qu'on a commencé à découvrir à travers les camps de concentration. Il y a des gens qui étaient dans des camps de concentration, des situations absolument abominables et qui gardaient la sérénité et la joie. Comment expliquer ça? Bon, ben, le terme psychologique, c'est la résilience. C'est pas uniquement de la résistance, la résilience. Il y a de la sérénité dans ça. Donc, on va dire, oh, les Haïtiens sont pleins de courage, de résilience. Les Québécois vont dire ça sans problème. Mais ce qu'ils savent pas, ils ne veulent pas trop savoir, qu'est-ce qu'il y a au fond de la résilience? D'où ça vient cette résilience? D'où ça vient cette force-là?
Avec ta foi.
C'est ça exactement, ça vient de la foi. Ça vient de la confiance, dans l'abandon à Dieu, la prière. Je suis toujours étonné de voir les gens, mon Dieu là. Des fois, les gens viennent me demander de l'argent, puis ils m'ont dit, j'en ai plus. Là. Oh, ça vient, mon Dieu là. La prière. Après le tremblement de terre, juste pour revenir, après le tremblement de terre, juste pour vous dire, pour faire comprendre que notre manière de voir, puis leur manière de voir, c'était complètement différent. Après le tremblement de terre, tous les groupes religieux, les catholiques, les protestants, peut-être les vaudouisants, mais en tout, tous les groupes religieux ont dit, ben, on est dans l'épreuve. On va faire 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Et bon, de fait, c'est 3 jours de jeûne, au point que les Haïtiens qui travaillaient dans les ports et puis qui s'occupaient de les autres ici faisaient des jeûnes, d'autres ne travaillaient pas. Les commentaires que j'ai entendus ici, c'est abominable. Les églises, ils obligent les gens à faire du jeûne alors que le peuple est en train de mourir de faim et puis la distribution de la nourriture ne se fait pas, ça n'a pas de bon sens. Ça. Mais vous êtes là-bas, 3 jours de jeûne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, peut-être, bien sûr, qu'ils vont avoir moins de nourriture, ils sont peut-être habitués aussi, mais ça veut dire 3 jours de prière. Et pendant 3 jours, ça a été la prière. Et le jeûne. L'an passé, il y a eu le premier anniversaire du tremblement de terre. Ils ont dit une journée de jeûne. Tout était arrêté en ville. Tout était arrêté et les gens passaient du temps à l'église, à la prière, tout ça. Il y a quelque chose de profondément religieux, Dieu se révèle aux pauvres. Et là, j'ai l'impression qu'on touche quelque chose. Dans l'Évangile, il y a une phrase qui me frappe. Jésus qui dit, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase-là. Bon, pour moi, ça me frappe beaucoup. Ça frappe les théologiens parce qu'ils vont dire il y a deux sens. Les autres théologiens vont mettre de l'ordre dans tout ça. Ça veut dire quand Jésus dit quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ça veut dire quand je serai rendu au ciel, après l'ascension, à ce moment-là, je vais attirer à moi tous les hommes. Je vais réconcilier à moi tous les hommes, à Dieu tous les hommes. Mais ça veut dire aussi quand j'aurai été élevé de terre, c'est-à-dire aller sur la croix crucifié, un spectacle abominable, j'attirerai à moi tous les hommes. Et j'ai l'impression que les Haïtiens, je dirais, sont comme attirés par Jésus en croix, sont attirés par ce Jésus qui s'était pauvre, qui s'était petit. C'est Dieu qui s'était pauvre, qui s'était petit, comme nous autres. Je dirais, il y a comme, dans leur situation de pauvreté et la situation qui est vécue par Jésus pauvre, pauvre au point qu'il a vécu l'injustice, qu'il a vécu l'abandon, le renouement et tout ça, ils se retrouvent aujourd'hui. Autant quand les gens étaient dans les campements, ben Jésus aussi, il a été comme parmi les migrants. Il est né à peu près dans les mêmes situations. Ils ont cherché un endroit pour demeurer comme nous autres. Donc, toute cette réalité de ce Jésus, de ce Dieu qui est pauvre, c'est pas rebutant pour eux autres. Il y a quelque chose d'attirant, il y a quelque chose d'une connivence, je ne sais pas trop comment le dire, mais on peut dire c'est comme moi, c'est comme nous. Il nous comprend. Je l'ai déjà raconté peut-être ici, il y avait une personne que j'allais voir à l'hôpital qui souffrait de sclérose en plaques et qui bougeait pas. On rentre dans sa chambre, j'étais avec sa soeur, et au moment où on rentre dans sa chambre, elle me dit, elle regardait le crucifix, lui, au moins, il me comprend. C'était pas un reproche qu'elle nous faisait, nous autres, mais c'était une manière de dire, lui, là, il me comprend. Il n'y avait pas de démonstration intellectuelle, mais une sorte de certitude qu'il n'était pas seul dans sa misère. Et je reste un peu la même chose en Haïti. Les gens qui vivent la pauvreté petite, lui, il comprend. Lui, il nous comprend. On est pauvre petit. Alors je dirais, pour moi, cette phrase-là, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est une phrase extrêmement riche pour moi parce que c'est paradoxe. C'est paradoxe. Comment expliquer que des pauvres, je dirais, trouvent une source de ressourcement devant un crucifix, sinon qu'ils se retrouvent dans ça. Et derrière ce crucifix, il va aussi se modeler un peu l'espérance de la résurrection. Bon, quand je dis, pour moi, c'est une richesse, pour moi, d'être là, c'est de cet ordre-là. Un ressourcement, je dirais, c'est un peu comme si c'est plus facile de voir l'Évangile vécu là que de le voir l'Évangile vécu dans la société. Il y a quelques années, je faisais un peu de ministère à l'Université Laval et ça m'avait frappé. À l'Université Laval, on pouvait parler de Jésus. Est-ce que je peux? Oui, il s'aimait beaucoup, oui, merci. À l'Université Laval, je pouvais parler de Jésus qui faisait des miracles, un Jésus grand, un Jésus qui faisait des beaux discours, les béatitudes, c'était extraordinaire. Mais quand je parlais de Jésus du Vendredi Saint, on dirait que ça collait moins. C'est pas. On se retrouve moins. Je suis descendu en Marseille. Avec les gens du milieu, il faut un partage, tout ça. Et c'est pas difficile de parler de Jésus, du pauvre, c'est plus proche. Alors, je vis un peu la même chose en Haïti, de sentir qu'eux sont capables de comprendre le Dieu pauvre, petit, qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Donc, c'est ça. Alors, je suis liable. Il reste les 3 minutes pour la suite. Bon, juste pour vous dire, mais une autre chose, ce que je trouve important, c'est la solidarité qui se vit entre Haïti et ici. Ça me frappe de voir les gens qui m'ont parlé là, de France Douceur. Il y a une solidarité de prière, il y a une solidarité de dons qui a été faite, et puis. Mais il y a une solidarité. et vous ne les connaissez pas. Bon, j'envoie une photographie, j'écris des lettres, et puis je parle de ceux que j'aime, mais vous ne les connaissez pas. Puis pourtant, vous vous sentez solidaire, envoyez de l'argent, envoyez des dons, priez pour eux autres, et puis... Mais c'est la même chose de l'autre côté. Ils ne vous connaissent pas. Mais ils vont prier pour vous autres. Ils vont dire, ben non, on ne connaît pas, mais on prie. Et quand je reviens au mois de mai, au mois de juin, il me dit à moi, oubliez pas, là, de dire, on prie pour les bienfaitants. Il dit, il faut prier pour les bienfaitants. Ah oui, on prie beaucoup pour eux autres. Puis, et il répète souvent. Il y a une solidarité. Ils ne cherchent pas à connaître vos noms, mais ils savent que quelqu'un qui est capable de partager de son bien-être et eux partagent de leur foi quand ils prient pour vous, partagent de leur confiance en Dieu. Dans un sens, vous êtes ceux qui sont ici, vous êtes un peu comme la Providence. Et quand ils sortent, Providence pour eux autres. Quand je dis ça, ce n'est pas simplement une question d'argent, c'est une question de solidarité et d'amitié. Il y a quelque chose de fraternel et il y a quelque chose qui est un souci. Ça fait partie de cette solidarité. Donc, il y a un échange et ça, pour moi, c'est extrêmement important que vous puissiez comprendre et le savoir que les gens sont très reconnaissants pour toute l'amitié que vous leur manifestez à travers moi, à travers les noms. Bon, alors juste pour vous dire que c'est un échange. C'est pas, ça ne va pas simplement dans un sens, ça va dans les deux sens. Bon, voilà, c'est le temps de la messe là maintenant. Est-ce que j'ai dépassé deux minutes?